Le journal Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous. Des dizaines de milliers d'Australiens évacués, état d'urgence décrété dans le sud-est du pays. Les conditions météo de ce week-end risquent d'aggraver encore les incendies qui ravagent le pays. Nous rejoindrons notre envoyé spécial à Canberra dans quelques instants. L'Iran s'invite dans la campagne électorale américaine. Les républicains applaudissent Donald Trump pour avoir éliminé le général Soleimani. Mais pour les démocrates, c'est une décision irréfléchie. 30 jours de grève. Les opposants à la réforme des retraites ne baissent pas la garde. Les syndicats n'ont pas relâché la pression pendant les vacances. Les partis politiques ont eux aussi leur stratégie, nous expliquera Maxence Lambrec. Comment rendre les vaches moins polluantes en méthane? Eh bien avec de l'ail et des écorces d'orange. Et puis le sport avec la Coupe de France de football au sommaire du Journal des Sports à la fin de ce journal. Et vos invités, Eric.
Les invités avec une question. Y a-t-il une stratégie Trump au Proche-Orient? On va en parler ce matin avec Thierry Covey. Il est chercheur et spécialiste de l'Iran. Également Georges Malbruno, grand reporter au Figaro. Il a passé quelques jours avec les milices pro-iraniennes en Irak.
France Inter. Les Australiens l'appellent désormais le monstre. Le monstre, ce sont ces 110 incendies qui ravagent le pays, dont la moitié reste hors de contrôle. Dans certaines régions, les reconnaissances aériennes et les interventions de Canadair ont été suspendues tellement les feux sont intenses. Les fumées s'élèvent au-dessus des nuages. Dans le sud-est de l'Australie, le ciel a pris une couleur orange de jour comme de nuit. Le soleil a disparu. Bonjour Gaëlle Joly.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Canberra. Il s'agit de sauver des vies, a averti la première ministre de Nouvelle-Galles du Sud. Les Australiens sont désormais évacués par dizaines de milliers. La situation semble empirer.
Oui, le sud-est de l'Australie brûle et rien ne semble pouvoir arrêter les flammes avec un mercure qui est monté parfois aujourd'hui jusqu'à 46 degrés. Ce vent qui souffle bien trop fort et qui va bientôt changer de sens pour compliquer un peu plus le travail des pompiers ici à Canberra. Une brume opaque recouvre la ville. Hier, l'état d'urgence a été décrété dans le sud-est. Pour 7 jours, 100 000 personnes ont été évacuées. La plus importante opération jamais lancée dans la région. Ce matin, le gouvernement a appelé en renfort 3 000 militaires réservistes. En plus, des 3000 pompiers déjà présents, des soldats du feu canadiens et américains sont également en appui, car les chiffres sont dramatiques. Déjà au moins 22 morts, un demi-million d'animaux tués, dont 8000 koalas, désormais espèces menacées, 6 millions d'hectares partis en fumée, soit deux fois la Belgique. Les prochaines heures vont être décisives. 137 feux brûlent, dont la moitié sont hors de contrôle. Depuis ce matin, tous les habitants ont les yeux rivés sur une application sur leur téléphone qui montre en temps réel l'avancée des flammes.
Gaëlle Joly, en direct de Canberra pour France Inter, avec Arthur Gerbeau pour les moyens techniques.
L'escalade continue entre les États-Unis et l'Iran avec ce samedi un nouveau raid américain contre les pro-Téhéran en Irak.
Il y aurait 6 morts et 3 blessés graves. L'Irak qui célèbre en ce moment même les funérailles du général iranien Soleimani et de son principal lieutenant dans le pays. Un nouveau raid peu après cette déclaration de Donald Trump dans laquelle le président américain disait ne pas chercher la guerre avec l'Iran et qu'il ne souhaitait pas un changement de régime à Téhéran. Il n'empêche, les États-Unis ont décidé de déployer 3 à 3500 militaires supplémentaires au Koweït pour renforcer la sécurité des positions américaines dans la région. Mais à moins de 11 mois de l'élection américaine, Donald Trump pense d'abord à lui et à sa campagne de réélection. Pour beaucoup, le président américain a ouvert la boîte de Pandore. La question iranienne est désormais au cœur de cette campagne électorale. Grégory Phillips.
Toute la journée d'hier, les candidats démocrates à la Maison-Blanche ont critiqué l'initiative de Donald Trump. En meeting dans l'Iowa, l'ex-vice-président d'Obama, Joe Biden, s'interroge. Est-ce que Trump et son administration ont une stratégie? Ont-ils pensé à la prochaine étape? Également en Iowa, le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, celui qui en 2002 avait voté contre la guerre en Irak, exprime son inquiétude. C'est une escalade dangereuse qui nous rapproche encore un peu plus d'une autre guerre désastreuse au Moyen-Orient. Le jeune Pete Buttigieg, le seul des 14 candidats à pouvoir mettre en avant son expérience de lieutenant en Afghanistan, est lui en meeting dans le New Hampshire et il dit penser à ses troupes que la Maison-Blanche envoie en Irak. Ce n'est pas un spectacle, pas un jeu. Des vies sont en péril, en particulier les vies de celles et de ceux qui montent dans l'avion aujourd'hui. Donald Trump, lui aussi, est en campagne, mais pour sa réélection, hier après-midi, il était devant 15 000 chrétiens évangéliques en évoquant la mort du général iranien. Le président américain a dit que Dieu était du côté des États-Unis. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Retour en France où la SNCF annonce une amélioration de la circulation de ses trains pour le week-end de retour des vacances avec un taux de grévistes tombé à son plus bas niveau. 7 TGV sur 10. La RATP a également annoncé une légère amélioration pendant le week-end avec 2 lignes de métro fermées. Après 30 jours de grève, les syndicats opposés à la réforme des retraites promettent de ne pas laisser de répit la semaine prochaine au gouvernement. Et les partis politiques, Maxence Lambrec, ont également leur stratégie.
La gauche prépare déjà cette seconde période avec une pétition commune, sans doute en début de semaine, et une réunion mercredi de l'intergroupe parlementaire qui rassemble tous les partis de gauche, excepté la France Insoumise. Ils essaieront d'aboutir ensemble à un même contre-projet. Jean-Luc Mélenchon veut lui garder sa liberté de ton, omniprésent avant Noël. Il le sera à nouveau la semaine prochaine. Il retrouve dans ce conflit un peu de couleur. Les communistes regagnent en visibilité, pendant que socialistes et écolos jouent collectif sans monter en première ligne, car certains n'ont rien contre un système de retraite par points. À droite, le ton se durcit. Il y a urgence à retirer cette réforme qui n'a plus de sens, tacle Christian Jacob. Chaque jour qui passe, l'exécutif recule. Les Républicains veulent insister sur toutes les exceptions et ils auront une belle tribune pour cela puisqu'ils ont réussi à convoquer mardi au Sénat et à l'Assemblée un débat sans vote sur cette réforme. Marine Le Pen y participera mais elle ne veut pas trop en faire, consciente qu'il faut être aussi du côté des usagers bloqués. Si elle reporte ses vœux à la presse prévue jeudi, ce n'est pas pour aller manifester à Paris mais bien pour rester au second plan.
Maxence Lambrec, l'attaque hier à Villejuif, le tueur récemment converti à l'islam souffrait de problèmes psychiatriques. L'attaque n'est pas considérée à ce stade comme étant un acte terroriste. Cette agression au couteau a fait un mort et 2 blessés. L'assaillant de 22 ans a été abattu par la police.
On le sait Laurence, les vaches polluent, les ruminants nuisent tout autant sur le climat, autant que les voitures, les camions, les avions combinés. D'où cette question ce matin, comment rendre les vaches moins polluantes?
Ou comment diminuer le méthane au pouvoir réchauffant 25 fois plus puissant que celui du CO2. Le méthane provient d'héros et des flatulences liées à la digestion des ruminants. Près de 40% des émissions de gaz à effet de serre dans l'agriculture. Alors le lin a déjà été introduit dans leur nourriture pour faire baisser cette pollution. Les chercheurs se penchent aussi désormais sur l'ail, Sophie Bécherel.
C'est le pouvoir antibactérien de l'ail qu'utilisent les chercheurs pour diminuer la production de méthane dans l'estomac des ruminants lors de la digestion. La vache a en effet le pouvoir de transformer l'herbe qu'elle broute en nutriments. Mais le processus est long car elle possède 4 poches dans son estomac et que la fermentation dure longtemps. Résultat, 90 kg en moyenne de méthane produit chaque année par animal. Une société suisse et des chercheurs américains ont mis au point un complément alimentaire en cours de brevetage. Il est composé d'ail et d'écorce d'orange. L'ail inhibe la production de certaines bactéries productrices de méthane. Selon les études sur des vaches laitières, cet ail ajouté à la ration journalière pourrait faire baisser de 20 à 38% le méthane produit. Un résultat valable au laboratoire et pas encore au champ. D'autres stratégies existent, comme par exemple l'ajout du lin dans la ration alimentaire. Il permet de diminuer d'un cinquième la production de méthane. Pour 2021, une entreprise hollandaise annonce une autre stratégie, un additif chimique baptisé 3-NOP. Il serait sans impact sur le goût du lait.
Sophie Bécherel.
C'était il y a 60 ans. Albert Camus mourait dans un accident de voiture. Il avait 47 ans et sa mort a scellé la légende de cet écrivain français au destin exceptionnel.
Albert Camus et Michel Gallimard meurent sur la route nationale 5 dans l'Yonne, à Villeblevin. Camus rentrait de chez le poète René Char. Sa mort fut un choc pour tout le pays. L'auteur de La chute de l'étranger, de la peste, de pièces de théâtre et d'essais, était un humaniste convaincu, un homme populaire. Camus l'est encore aujourd'hui. Depuis 60 ans, rééditions et biographies se sont multipliés et les hommages n'ont jamais cessé. En 1957, l'enfant pauvre d'Alger était l'un des plus jeunes prix Nobel de littérature. Lors de son discours de réception à Stockholm, Albert Camus avait donné sa définition de l'écrivain.
L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. C'est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Et s'ils ont un parti à prendre en ce monde, ce ne peut être que celui d'une société où, selon le grand mot de Nietzsche, ne règnera plus le juge, mais le créateur, qu'il soit travailleur ou intellectuel. Le rôle de l'écrivain, du même coup, ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, Il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon, le voici seul et privé de son art.
Albert Camus en 1957, lors de la remise de son prix Nobel. Et puis à noter que samedi prochain, le 11 janvier, donc à 18h, des textes d'Albert Camus seront lus dans l'église de Villeblevin, accompagnés par l'orgue.
C'était le journal de Laurence Thomas.